Anne Reiner, préface des pages d'hôpital d'Edouard Neuburger. Pages d'hôpital. Ne dirait-on pas un titre du pauvre Lélian? Et le poète de 20 ans qui pleure ici ses langueurs, ses émois, la nostalgie de ses désirs et de ses regrets, me semble en effet un parent de l'être doux et qui essaya de s'enseigner à lui-même la sagesse de Jésus. Ils sont frères par l'avidité de se donner. Ce sont des âmes d'amour et de sincérité, des âmes de sensibilité, et incapables de cacher un de leurs frémissements. Neuburger, lui aussi, a toutes les ingénuités, toutes, jusqu'à celle parfois de se croire pervers. Verlainien, il l'est encore, par ce qu'il apporte de naïf et de raffiné dans la recherche du moyen expressif, par son mépris de telles banalités syntaxiques que d'autres prennent pour des banalités absolues, par son inquiétude devant le mot, ce sphinx, et par la souplesse tranquille dont il joue de la phrase, cet esclave. M'en a-t-il proposé, l'enfant harmonieux, sur tous les détails de l'art que nous aimons, et sur la banalité du récit direct qu'il ne veut jamais écrire, toujours suggéré, et sur l'exclamation synthèse et l'exclamation spontanéité, et sur l'indéfini indispensable et la nécessité de la précision. M'en a-t-il proposé des théories tâtonnantes et trouveuses dans les allées du Luxembourg élargi de crépuscule? Et le commencement de sa destinée fut maudit comme la destinée de Verlaine. Le poète adolescent qui écrit pages d'hôpital pourrait tout aussi bien dire des émois de prison, car il connaît déjà les deux refuges des pauvres. Et de cela, il doit être non excusé, tel Verlaine, comme d'une chose indifférente ou fatale, mais loué, comme d'une beauté. Car il accepta cette brutalité et consentit à ce mépris pour une idée ennoblie de sentiments. Et il avait réclamé ce jour-là la place et la souffrance d'un frère de pensée. Malgré de singulières ressemblances d'âme, d'esprit, de destinée, il ne faudrait point prendre Neuburger pour un disciple de Verlaine. Verlaine ne peut avoir que des disciples ineptes. À ceux qui le comprennent, il enseigne seulement qu'on doit être soi. Neuburger est un être original et même complexe. Il est de race un peu française, un peu allemande, un peu italienne, autrement compliqué que Paul le bon Lorrain, ce simple de génie. N'annonce-t-il pas son prochain livre sous ce titre, Gestes et paraboles dans l'indéfini? Cette précision nette du premier mot, bientôt noyé dans la brume, me paraît dire Neuburger en ce qu'il a d'essentiel, en son amour latin de la beauté, en son instinct germain de ne se satisfaire de rien de déterminé et de demander toujours autre chose quand il n'a que du défini. Par quel art anxieux, en équilibre instable, se satisfont ces aspirations contradictoires? On le voit déjà dans ces étranges pages d'hôpital. Ici, le mot très souvent est précis. La phrase flotte un peu. L'alinéa s'estompe, et je ne sais comment, voici que le livre en son ensemble devient clair comme une construction romaine. Ces poèmes vagues, par leur réunion, suggèrent le plus précis des romans. Même des sentiments, qui auraient peut-être gagné à rester dans l'indéterminé, se précisent à la fin en une forme d'amour qui semble laide au moderne. Ce que j'aime surtout dans ce premier livre, c'est la joliesse maladive et troublante du mot. Je ne cite rien. Pourquoi donc offrir un bouquet à ceux qui vont avoir la joie d'entrer dans le jardin? Neuburger est désolé, parce que quelques-uns auxquels il lut son manuscrit n'en virent point l'unité. Et il voudrait, je crois, que cette préface résumât l'histoire. La précaution est inutile, et une lecture active comprendra sans effort. Si j'avais cédé au désir du poète, je suis sûr qu'il m'en voudrait. Je ne pouvais satisfaire l'italien sans déplaire à l'allemand. J'ai cru mieux employer ces lignes en indiquant ce qui constitue, d'après moi, la personnalité de l'auteur et d'où vient le charme de ce métis qui, nulle part, ne rencontrera la joie tranquille et définie d'être tout à fait dans sa patrie.